Un petit mot sur le match du Canadien. C'est une victoire hier, là.
Ouais, victoire de 5-2 face à des Capitals de Washington qui n'étaient pas en très grande forme. Disons qu'ils ont beaucoup fêté cet été la première conquête de leur Coupe Stanley. Et ils avaient encore les pieds dans le ciment hier, particulièrement en première période, alors que le Canadien a pris les devants 3-0. Et à un moment donné, il restait 4 minutes à jouer dans la première. Et c'était 14-0 les tirs en faveur du Canadien. Ils ont tenté un retour en deuxième avec deux buts, dont un d'Ovechkin, avantage numérique. Mais ça a été le seul moment là où ils ont constitué ou représenté une opposition aux Canadiens. Pour le reste, ça a été un match passablement à sens unique. Bonne soirée de travail pour Philippe Dano, Thomas Tatar et Brendan Gallagher qui ont récolté 5 points. Gallagher, Lekkonen, Chaput, Delarose et Rinat Valliev ont marqué les buts du Canadien. Il y a des coupures aujourd'hui et demain, on accueille les Sénateurs d'Ottawa au Centre Bell.
Bon, la nouvelle qui a fait pas mal jaser hier, c'est l'Agence mondiale antidopage qui a décidé de réadmettre la Russie qui avait été suspendue près de 3 ans là, environ, la suspension, après toute l'histoire du dopage.
Ouais, un scandale de dopage d'État, là, où l'État était impliqué, puis c'était là, vraiment quelque chose là, d'assez sur grande envergure. Et on a décidé de lever la suspension sans que la Russie n'ait à admettre ses torts. Écoute, on n'a rien exigé de la Russie en retour de la levée de cette suspension. Ça a soulevé un tollé partout dans le monde. Et pour en parler, on va aller retrouver le médaillé olympique en ski acrobatique, Jean-Luc Brassard. Bonjour, Jean-Luc.
Bonjour, Alain.
Jean-Luc, quelles vont être les conséquences de cette décision de l'Agence mondiale antidopage? Est-ce que le dopage va devenir un bar ouvert?
Oui, mais c'est la question que tout le monde se pose présentement, à savoir, c'était le journaliste Martin Leclerc qui avait dit, c'est peut-être le dernier rempart de protection des athlètes propres qui vient de tomber. Parce que le message que ça envoie, en quelque sorte, c'est que si vous êtes un athlète et vous désirez vous doper pour améliorer vos performances, pour avoir des médailles olympiques ou des médailles de championnat du monde, si vous provenez d'une nation qui est forte, qui est puissante, qui donne beaucoup d'argent au Comité international olympique qui a une influence certaine, ben vous allez être finalement, il n'y aura aucun problème à être dopé et à passer les tests antidopage en toute quiétude, finalement. Parce que ce que l'AMA a fait en réintégrant la Russie, c'est de passer la couverte sur non pas un ou deux cas de dopage, mais près de 1000 cas de dopage d'un seul coup. C'était ça, le phénomène de dopage étatisé. Ce n'est pas la seule nation. C'est le journal Le Monde qui nous apprenait qu'avant le phénomène de dopage étatisé, la nation qui s'était fait le pincer avec le plus de dopés à l'intérieur de ses rangs dans l'histoire de l'Olympisme, c'était les Américains, qui étaient suivis de près à l'époque par les Russes. Mais ce phénomène-là de dopage étatisé qui était... On peut comprendre un peu que le but des Russes à l'époque, ça c'était à la veille des Jeux de Sochi en 2014, le but des Russes c'était un peu de copier ce qui s'était passé à Vancouver avec les Canadiens, de redonner une grande fierté nationale en ayant le plus de médailles possible, si possible en pulvérisant le nombre de médailles d'or, tout ça. Et c'est à partir de cette idée que ce dopage étatisé était parti. Mais maintenant, quand l'AMA vient de dire, ben tout ça, ça ne compte plus. Vous avez outrepassé les règlements, mais il n'y a pas de problème, les amis. On vous réintègre et la vie est belle. Continuez de donner du cash pour le CIO. Ben ça l'envoie un bien drôle de message à toute la communauté athlétique mondiale, certainement. Mais aussi un message, je pense, qui est aigre-doux à tous les spectateurs, à tous les gens qui peut-être croyaient encore à une certaine pureté du Comité international olympique.
J'ai une question. Si je te ramène un jeune athlète qui a des ambitions puis qui a des rêves olympiques et qui prend connaissance de la décision, est-ce que ça vient comme, je sais pas moi, couper le goût de poursuivre en disant « je vais aller affronter des robots qui sont boostés et j'ai aucune chance »
C'est une excellente question. Je me la suis posée. En fait, ça fait 2 jours que je me la pose. Dans certains sports, des sports plus dits d'agilité, personnellement, je suis pas un expert en dopage. Je vois difficilement quelle substance peut rendre un athlète plus agile. Maintenant, dans les sports de distance ou de force, c'est évident qu'il y a une lacune de ce côté-là. Entre autres, on le voit. Ben, l'exemple flagrant d'Alex Hervé au ski de fond à Pyeongchang, aux 50 km. Là, il est champion du monde de cette discipline en titre. Il se fait battre par un Russe qui éventuellement arrive deuxième, qui n'avait même jamais fait le 50 km de ski de fond, qui n'avait jamais fait une discipline comme ça.
Alex Hervé nous a dit que dans certaines compétitions, il voyait arriver aux Jeux olympiques des gens qu'il n'avait pas vus dans aucune épreuve internationale, puis des gens qui se positionnaient là parmi les meilleurs.
Ça dit tout. Ça dit tout et c'est la réalité qui doit tellement être frustrante pour ces athlètes de pointe-là qui, tu sais, il faut comprendre que les autres, à tous les jours, l'été, ils se sortent le cœur de la poitrine, là, tellement que leurs entraînements sont intenses. À tel point, ils doivent pousser. Et je sais pas comment ils font pour garder la flamme très, si présente en course quand ils voient justement des gens arriver de nulle part puis les battre de la sorte. Mais pour les jeunes cyclistes, les jeunes fondeurs, les sports d'endurance comme ça, il doit tellement avoir, je suis convaincu qu'ils vivent l'espoir que ça n'arrivera pas, que ça va changer. Et jusqu'à tout dernièrement, ben, l'Agence mondiale antidopage, c'était le repère de se dire, ben, ils vont se faire pincer parce que l'Agence est présente. Mais maintenant, en réinsérant ces athlètes russes, ben, l'Agence vient de passer un drôle de message en voulant dire, on n'est pas là pour tout le monde. On est là pour certains d'entre vous. Mais si vous êtes de pays douteux, ben, tant pis, là, eux vont passer, puis vous, ben, ramassez-vous avec les miettes.
D'ailleurs, pour compléter avec Alex Harvey, il avait terminé quatrième aux 50 kilomètres. Je pense qu'il y avait deux Russes sur le podium devant lui. Et à un moment donné, il avait dit, j'ai poussé à la fin, terminé quatrième. Il dit, on sait jamais.
Ben, c'est ça, malheureusement. Mais la tragédie pour nous, au-delà de la moralité au niveau canadien, c'est que le financement de notre sport d'élite est basé sur les médailles. Le fameux programme, là, à nous le podium. Je vais me retenir de vous dire ce que je pense de ce programme-là.
Mais tu devrais pas te retenir.
Ben, c'est parce que on décide de financer le sport d'élite canadien basé uniquement sur les médailles olympiques. Mais comme on est battu régulièrement par des dopés, sans raison, là, parce qu'il n'y a aucune raison pour laquelle les athlètes canadiens, dont on produit parmi les meilleurs entraîneurs au monde, c'est reconnu, on produit exactement aussi des athlètes exceptionnels, mais on est battu régulièrement par des athlètes dopés. Donc, quand Alex Hervé arrive quatrième, ben non seulement il n'y a pas sa médaille olympique qu'il mérite, il n'y a pas son moment, tout le tralala qui va avec ça, mais le financement, parce qu'il n'a pas de médaille, le financement de sa fédération est coupé de moitié. C'est exactement ce qui est arrivé. Alors, le budget de Ski de fond Canada est amputé de moitié parce qu'il n'y a pas une médaille aux Jeux olympiques, imaginez. Alors ça, là, c'est une erreur monumentale qu'on fait, et c'est la même situation pour un paquet d'autres sports dont les budgets sont aléatoires à tous les 4 ans. Mais former une élite sportive, ça prend beaucoup plus que 4 ans. Donc, quand vous coupez l'herbe sous le pied, vous avez des athlètes là, qui sont au seuil de devenir les meilleurs au monde, mais whoop, on les coupe là, tout de suite au départ, parce que la seule et unique raison pour laquelle on subventionne le sport, c'est pour les maudites médailles. Et ça, ça devrait, c'est tout à fait à l'encontre de l'esprit sportif, d'abord et avant tout. Et c'est uniquement basé sur notre désir d'auto-satisfaction personnelle, de dire, waouh, on est donc bien bon, on a un paquet de belles médailles. Mais dans tout ça, il faut se rappeler que peu importe si vous réussissez ou non au jeu, n'importe quel athlète provenant de n'importe quelle région, si vous venez de Woburn ou peu importe, si vous vous rendez jusqu'aux Jeux olympiques, vous représentez une belle fierté pour votre région, et les jeunes de votre région peuvent s'associer à vous pour dire « Wow, j'aimerais ça faire comme lui à un moment donné ». Alors maintenant, on sape ces espoirs-là, on sape ces modèles-là, tout simplement en disant « Ben, coudonc, ça prend des médailles à tout prix ». Et on est prêt à tout faire pour arriver à ces médailles. Et c'est tellement gangréné que dans certains sports de distance, si vous n'êtes pas asthmatique, vous avez intérêt à devenir asthmatique. Tout simplement parce que vous pouvez avoir une autorisation médicale qui vous permet d'avoir ces médicaments qui aident à faire un transport d'oxygène. Quand vous êtes vraiment asthmatique dans la vie, vous avez une crise d'asthme, vous avez besoin d'un transport d'oxygène qui va vous restarter. Mais dans le sport, on a rapidement compris ça. Qu'être asthmatique, c'est un gros avantage. Alors, on a des prescriptions médicales qui donnent un certain milligramme, probablement le seuil possible. D'ailleurs, on a vu le cycliste Chris Froome au dernier Tour de France, c'était un peu ça son affaire, là. Lui, il est asthmatique tout le temps. Qu'il fasse beau, pas beau, humidité, pas humidité, altitude ou non, il a toujours son maximum de degrés de milligrammes de médicaments contre l'asthme.
Et il fait ses pires crises pendant les compétitions.
Ben oui, mais là, à ce moment-là, comprenez le système, là, il amène le plus d'oxygène possible dans son sang, ce qui l'aide à augmenter ses performances. Et certains pessimistes vont dire, oui, mais le dopage n'augmente que de 10%. C'est beaucoup plus que ça, mais bon, pour rester très conservateur, certains vont dire une augmentation juste de 10%. Mais 10%, quand vous gagnez des courses au millième de seconde, c'est largement suffisant pour assurer des titres pendant des décennies, même faire des records qui vont durer des décennies. Alors, il y a un problème. L'Agence mondiale antidopage, c'était le dernier rempart. Et Dick Pound, le Canadien Dick Pound, qui a créé l'Agence mondiale antidopage, lorsqu'il était le président, il y a quelques années de ça, avait dit en entrevue au journal Le Monde, le phénomène de dopage étatisé. Là, il était très précurseur, là, c'est pas encore connu, toutes ces affaires-là. Mais il dit, il faudra enquêter sur de nombreux pays. Et là, je vous laisse aller lire l'article pour que vous regardiez quels sont les pays. Et c'est entre autres un pays qui va recevoir les Jeux olympiques prochainement. Alors, ça en dit long sur un phénomène qui est présent, qui nous concerne indirectement, parce que on voit nos espoirs, nos fédérations, des gens qui travaillent de longue haleine pour créer des athlètes, des modèles, et qui voient leur budget amputé, tout simplement parce qu'on vit dans un système qui est uniquement axé sur la performance, vraiment à tout prix, là, à tous les prix qu'on peut payer.
Merci beaucoup, Jean-Luc Brassard.
Un plaisir.
Bonne journée. Alors, écoute, dopez-vous.
Hélas, faites de l'asthme.
Vous allez gagner des médailles. Tu sais, mais c'est vrai que ça va être... Moi, je pense à Alex Harvey, là.
Mais pense à son père.
Oui, aussi. Mais
lui, il s'est fait voler, là.
D'aplomb. Puis on a vu d'autres athlètes qui nous disaient, t'arrives, là, tu fais des compétitions internationales, puis t'arrives au jeu, puis il arrive d'où, celui-là? Ouais.
Des gars que t'as jamais vus, qui n'ont pas fait la saison de Coupe du monde.
Ils sortent directement du laboratoire, tu sais. Merci. 8h25. L'autoroute 25.